Bien, je suis content d'être avec vous ce matin. On va parler ensemble de la parole de Dieu. Un beau texte, c'est toujours des beaux textes, mais il y a des textes qui viennent nous chercher plus parfois hein, que d'autres. Et ce matin, c'est le cas avec ce texte-là. Je parle en ce qui me concerne. Mais avant, je veux juste donner quelques nouvelles lors de la bonne nouvelle. Donc, merci d'écouter, pour ceux qui écoutent. Quand je visite, puis les gens me disent « Ah, je t'ai vu ce matin », ça me fait toujours plaisir parce que, oui, c'est pour prêcher l'Évangile, mais même si les croyants entendent, écoutent, c'est toujours important d'écouter l'Évangile, de lire, s'entretenir de l'Évangile. Et merci de prier pour le ministère. On a fait la dernière série, on a justement terminé en janvier qu'on a tourné, oui. Puis là, ça roule présentement à la croisée des chemins, c'est la nouvelle. Puis on est en train de travailler sur la prochaine série qui devrait s'intituler quelque chose comme ça à peu près, à la poursuite ou à la recherche du bonheur. Je pense que tout le monde, on peut dire, ben moi je recherche le bonheur. Donc, ça va rejoindre tout le monde. Merci de prier pour nous, pour la famille. Marie-Pierre, vous pouvez prier pour elle parce que là, elle a eu, ça fait 2 ans que ça va bien au niveau de ses migraines. Quand on commence ses migraines, c'est toujours 12 à 14, 8 à 12, puis c'est déjà allé jusqu'à 16 semaines. C'était juste avant la COVID. Puis là, ça fait 2 ans, ça a bien été, mais là, vendredi, elle a eu une migraine, puis quand c'est trop fort, il faut qu'elle s'injecte un médicament, donc elle s'est injectée. Puis, donc c'est ça, on a tout le temps peur que ça commence, puis il ne faut pas que ça commence, parce que Marie-Pierre est à temps plein aux études, à l'université, pour enseigner le français au secondaire. Puis, elle a deux groupes où elle enseigne le français à l'eau vive. Donc, elle est temps plein, plus deux cours, plus la correction. Donc, elle est plus occupée que moi. Et vraiment, fait que je pense pas qu'elle peut se permettre. Mais en même temps, le Seigneur, pourquoi il permet des choses, on ne le sait pas. Mais priez pour ça, que Dieu va en fait faire sa volonté dans notre vie, dans la famille. Puis que s'il veut nous épargner, nous faire grâce avec cette maladie là, que Marie-Pierre a là, qu'elle ne puisse pas en avoir pour les prochaines semaines. Ça puisse partir. Alors, ce matin, bon, les yeux fixés sur le monde invisible, on va s'entretenir des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont importantes. On devrait s'attarder sur des choses. Puis, je vous invite à tourner. On va lire ensemble 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16, et on va aller jusqu'au chapitre 5, verset 10. Alors, 2 Corinthiens 4, 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet, au chapitre 5, verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je vais prier encore. Mes pères, on veut juste, avec ces versets, on veut juste écouter ta voix. Qu'est-ce que tu as à me dire, à nous dire, à chacun d'entre nous, à travers ce texte? Je prie, Père, que tu ouvres nos cœurs, que tu nous amènes plus loin, que tu nous fasses entrevoir un petit peu plus qui tu es, ce qui nous attend, la gloire à venir. Et merci encore pour ta parole qui est notre boussole, qui est notre guide, qui est notre fondement. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ qui a pris notre place. C'est en son nom qu'on veut prier. Amen. Alors, les yeux fixés, il y a deux ronds. Oubliez le rond en haut à droite. Là, j'ai oublié, je l'ai effacé, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, touche-y pas. Non, j'ai juste oublié, regardez-le pas, il devrait pas être là. Donc, les yeux fixés sur le monde invisible. Vous savez, c'est quand même difficile de fixer nos yeux sur quelque chose qu'on ne voit pas. Je veux dire, on a appris à marcher avec avec ce qu'on voit. Puis, à tous les jours, on se promène, puis moi, je prends mon char, puis je fais les angles morts, puis je regarde les lignes, où est-ce que je me parque. Donc, on vit par la vue dans pas mal tout ce qu'on fait. Alors, c'est difficile de se dire, il faut que je fixe mes yeux sur quelque chose d'invisible. Vous savez, la plupart du monde sont comme un peu, je vais, OK, j'ai ça ici, je peux aller. C'est bon, fait que je vais m'occuper. Oh oui. Bon, merci. Donc, la plupart du monde sont un peu comme ce couple sur cette image qui contemple la création. Moi, j'aime contempler la création. Ici, c'est le fun, c'est bon, on peut juste regarder dehors, puis on voit tous les beaux paysages. Mais bien que la création nous révèle que Dieu existe, parce que ça le dit, même dans la parole, ça le dit, je veux dire, les gens sont inexcusables, la création révèle que Dieu existe. Mais même si cette création-là nous révèle ça, bien, la plupart ne le voient pas. Et ils se contentent de ce que leurs yeux voient. Je me rappelle, pour ceux qui ont vu l'éclipse ici, j'imagine tout le monde était là. Hein? Ceux qui étaient absents. Mais moi, j'ai vu cette éclipse-là, puis quand je regardais ça, c'est venu me chercher vraiment, parce que moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment pogné de quoi quand j'ai vu ça. Et les gens, tout le monde a pogné de quoi, dans le sens, c'est « wow, c'est la première fois, la plupart voyaient ça ». Mais moi, ce que je voyais, c'est Dieu en arrière de ça. Comment le soleil est 400 fois plus gros que la lune, mais 400 fois plus loin. Quel hasard, hein, tu sais. Mais Dieu a tout orchestré, notre système solaire, pour qu'on puisse vivre ça, ce spectacle-là, pour la science, on peut découvrir des choses avec les éclipses. Donc, moi, je voyais Dieu en arrière, mais les gens alentour, la majorité, voyaient la nature en arrière de la nature, dans le sens que Dieu, pour eux, n'existe pas. Donc, la plupart des gens vont voir la même chose que nous, mais ne vont pas voir Dieu. Jusqu'à temps que Dieu va se révéler à eux, on l'a entendu ce matin, Dieu attire les gens à Christ, vont se révéler à eux, et là, ils vont expérimenter cette nouvelle naissance, et là, ils vont réaliser que finalement, il y a une autre personne dans le portrait qu'on voit. Une autre personne qu'on n'avait jamais pensé, ou qu'on avait rejeté, mis de côté, puis on voit cette personne-là qui est Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une autre personne aussi, en plus des deux personnes, dans notre image. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quelqu'un qui le voit, la troisième? Non, il y en a, hein? Ouais. Voyez-vous qu'il y a un petit bébé? Donc, quand Dieu nous fait naître de nouveau, on le voit, lui. On voit qu'il y a une autre personne dans le portrait qu'on regarde. Donc, Même si Dieu est invisible, même si le monde spirituel est invisible, maintenant qu'on est chrétien, on le voit, ce monde invisible-là. Bon, on a de la difficulté, puis on est appelé à marcher par la foi, mais on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, vous êtes d'accord? Maintenant qu'on est chrétien. Et vous savez, le défi de chaque croyant, c'est quoi? C'est de vivre dans ce monde visible, mais pour le monde invisible. On va l'avancer encore. Donc, ce matin, c'est ce que je veux qu'on regarde. Quatre choses invisibles, mais sur lesquelles on devrait s'attarder. Parce que c'est important de s'attarder sur ces choses-là davantage. Et la première, c'est notre être intérieur. Nous devons nous occuper davantage de notre être intérieur. Connaissez-vous l'expression « la vraie beauté est à l'intérieur » Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, il dit, la vraie beauté à l'intérieur, c'est ça que les gens moches disent. Ben, je ne sais pas s'il y a raison ou non. Vous savez, on va dire ça si un enfant, mettons, un de nos enfants ou quelqu'un qu'on connaît qui est complexé par son image physique ou quelque chose qu'il n'aime pas sur sa personne, mais ses parents vont peut-être lui dire, ben non, la vraie beauté, c'est vraiment à l'intérieur. Puis c'est vrai, je veux dire, la vraie beauté, elle est à l'intérieur, puis plus on vieillit, plus notre apparence physique se détériore. Vieillir, ça nous rappelle qu'on est dans un corps déchu par le péché. On s'en va vers la mort. On vieillit, on a des rides qui apparaissent, on a de la difficulté, on a des maladies. Mon père est en perte de plus en plus d'autonomie, sa mémoire, puis on voit... Mais il est beau à l'intérieur. Il est un enfant de Dieu, né de nouveau. Mais on voit que vieillir, ça nous rappelle cette vérité-là. Mais quand on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, justement, on a cette nouvelle naissance. On est de nouveau. Il y a un homme, une femme intérieure, spirituelle, qui naît en nous. C'est de cet homme-là, ou femme-là, que Paul parle. Alors, tandis que notre corps déchu se détériore, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, il compare ce corps-là déchu par une tente. Une tente avec des piquettes, là. Je ne sais pas s'il y avait des piquets, de quelle manière c'était fait versus ce qu'on a aujourd'hui. Mais Paul, il connaissait, il en faisait des tentes. Donc, il connaissait la fragilité de ces tentes-là. Puis moi, j'en ai eu toute ma vie, des tentes sont tout le temps brisées. Fait que oui, c'est fragile, des tentes. Puis ensuite, il va comparer notre futur corps glorifié à un édifice. Donc, pas une tente en tissu qui se détériore rapidement, mais un édifice qui va être l'ouvrage de Dieu quand on va être avec le Seigneur. On sait que c'est pas maintenant, mais on sait qu'il parle du corps. Le corps est comme une tente fragile. Et c'est cette résurrection du corps-là qui motive Paul. Parce qu'il compare, bon, on est comme une tente fragile, mais regarde l'édifice qu'on s'en va être, le corps glorifié, quand on va voir le Seigneur, on va être transformé, on va avoir un nouveau corps, puis c'est ça qui motive Paul à ne pas perdre courage. Pour Paul, il n'y a pas d'épreuve ou de souffrance ou d'affliction trop grande si on les compare à ce qui nous attend avec le Seigneur, dans la présence de Dieu. Rien qui se compare à ce qui nous attend. C'est sûr, ça n'élimine pas les problèmes, les maladies, les difficultés, les défis, mais ça les remet en perspective. Bon, dans un premier temps, il faut se rappeler que Dieu utilise ça, hein, les souffrances, les épreuves. Il utilise toutes ces choses-là pour nous amener à grandir. Pour que notre homme intérieur, notre être extérieur se détériore, mais Dieu utilise ça pour renouveler notre être intérieur. On sait, les épreuves nous font grandir, nous amènent à comprendre des choses. Hein, on le sait, Job, il le dit, hein, il dit, hey, j'avais entendu parler. Renouveler notre être intérieur à travers une relation avec lui. Avec ses enfants. Puis, j'ai l'impression que je me répète dans les messages que j'apporte, parce que je parle souvent de cet élément-là. Mais j'en parle souvent parce que je crois tellement que c'est là la clé de la vie chrétienne. La relation intime qu'on a avec le Seigneur. Pour ça que je cogne toujours sur l'importance de prendre du temps avec le Seigneur. Et on peut se poser la question, hein, je vous la pose, hein, posons-nous là. Est-ce qu'on s'occupe d'alimenter, de prendre soin de cette relation-là? Est-ce qu'on cherche à être puissamment fortifié par son esprit dans notre être intérieur? Vous savez, on s'occupe très bien de notre extérieur, puis c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que le corps est mauvais et que l'esprit est bon. Ce n'est pas ça que Paul... Parce que je vois que j'avais l'air de... C'est trop long, là. Ensuite, on se brosse les dents, on se coupe les ongles, on s'habille propre. Donc, il y en a qui vont s'entraîner. On va s'occuper de notre être, notre corps. On va chercher à avoir une bonne alimentation. On va se coucher de bonne heure, si on est sage. On va prendre nos vitamines. Et là, on pourrait allonger la liste. Mais vous savez, tous ces efforts-là, parce qu'on fait tout le monde des efforts pour soigner notre être extérieur, tous ces efforts que je fais pour maintenir cette tente en vie le plus longtemps possible, c'est ce qu'on veut. On veut vivre vieux, on aimerait ça avoir une belle retraite, des beaux jours. On veut maintenir cette tente-là en vie le plus longtemps possible. Est-ce que je mets autant d'efforts à prendre soin de mon être intérieur? Puis souvent, les gens qui vont avoir de la difficulté ou avec le Seigneur, ou ça, bien c'est tout le temps, 100% là que ça l'accroche. Pas comme avant ou pas vraiment. Et ici, je ne parle pas de soigner notre apparence spirituelle en passant. Parce que malheureusement, on peut s'assurer d'avoir une apparence spirituelle extérieure, convenable, mais sans soigner vraiment notre être intérieur. Et c'est ça que Jésus reprochait aux pharisiens. Parce qu'on peut faire, on peut jouer aux petits pharisiens longtemps dans la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes des sépulcres blanchis, hein? Vous nettoyez l'extérieur de la coupe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Plein de méchanceté. Donc, on peut soigner notre apparence spirituelle, mais ce n'est pas ça. On doit s'occuper de notre être intérieur. Et je vous pose une question que je me suis fait poser parce qu'il y a 3 semaines, j'étais allé à la conférence des bergers en Californie. Puis un des prédicateurs a posé une question. Puis je vous la pose. Parce que ça m'a vraiment quand même fait réfléchir. Aimez-vous Jésus? Et bien sûr qu'on va... On va dire oui. Moi, j'aime le Seigneur Jésus. Et là, le prédicateur, il dit, je ne vous ai pas demandé si vous aimiez venir à l'Église. Je ne vous ai pas demandé si vous aimiez la communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Je ne vous ai pas demandé si vous aimiez écouter des messages. Je ne vous ai pas demandé si vous aimiez chanter des chants. Je ne vous ai pas demandé si vous aimiez votre ministère. Est-ce que tu aimes Jésus? Oh là, la question devient vraiment un petit peu plus profonde, hein? Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus, la personne? Il est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il est là, puis il veut juste prendre du temps avec nous. Reste attaché, accepte le serment. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Puis si la réponse est oui, bien comment tu le démontres? Ça fait réfléchir. Hein? Bien, en le suivant, en passant du temps avec lui, en l'écoutant, en lui obéissant. Alors, ça m'a vraiment fait réfléchir à cette question-là. Aimes-tu Jésus? Si oui, comment tu le démontres? Et ça revient avec cette relation avec lui. Alors, même si nos corps faiblissent, se détériorent, on peut grandir, on peut devenir plus fort pour le Seigneur. À chaque jour qui passe, parce que la vraie beauté pour le moment, c'est à l'intérieur, avec lui, dans notre relation, notre être intérieur. Un jour, on va avoir des corps glorifiés, on va être parfait partout. Mais pour l'instant, notre corps se détériore, mais la vraie beauté est dans notre relation avec le Seigneur. Notre être, notre homme-femme spirituel. Donc, quatre choses invisibles sur lesquelles on doit s'attarder davantage. Mais la première, c'est notre être intérieur. Soigner cet être-là. La deuxième, on va l'avoir. C'est la technologie. Moi, j'ai perdu contrôle. Veux-tu te dire d'avancer, Mario? En arrière. Ouais. En arrière. De une. Je pense que oui. Ouais. Le deuxième, la gloire à venir. Et ça aussi, c'est invisible, hein, en passant, la gloire à venir. Mais c'est quoi la gloire à venir? Moi, j'ai toujours cru qu'un remède efficace, en fait, le remède parfait pour tout croyant qui est soit endormi ou qui est soit somnolent dans sa foi ou refroidi, serait d'aller une fin de semaine au ciel. Imaginez aller au ciel pour la fin de semaine. Là, on part, on se réunit tous ici le vendredi soir, on part, puis on revient dimanche soir. Une retraite. Non, mais on revient. Là. Dans mon histoire, on revient. Pensez-vous que ça changerait un peu notre manière de continuer notre vie? Un peu? On n'y va pas, mais ça ne change pas la réalité que c'est là et que c'est glorieux. Puis je me demande pourquoi, tout le temps, pourquoi, Seigneur, on a tout le temps besoin de voir? Pourquoi ma vie n'est pas automatiquement changée juste en sachant que la gloire est là et que c'est merveilleux? Non, c'est parce que c'est comme s'il faut que je le voie pour revenir et hey, là, ma vie ne sera plus jamais pareille. Mais pourtant, la réalité est là. Et moi, j'ai l'impression que Paul a goûté déjà un peu à cette fin de semaine au ciel. Parce que dans 2 Corinthiens 12, 4, il parle d'un homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Il a entendu des choses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Puis je trouve ça intéressant, ça n'a pas permis à aucun homme, je ne peux pas l'exprimer. La personne ne peut pas en parler. C'est-tu parce que c'est interdit ou c'est-tu parce que, comment je peux décrire ça? Je n'ai pas de mots dans ma langue pour décrire ce que j'ai vu, mais je ne peux pas le partager à personne. Ça me fait rire parce qu'on entend tout le temps des histoires de personnes qui sont mortes, qui sont parties, puis qui ont vu des choses, puis qui reviennent, puis qui écrivent des livres, puis ils font des films, puis ils nous racontent tout ce qu'ils ont vu. Eux autres, comme si eux avaient le droit. Et vous savez, c'est tout du n'importe quoi, ça. Puis j'ai une sœur dans le Seigneur, une fois, qui était venue me voir, elle dit, hey, « as-tu vu l'histoire du petit gars qui est mort? Il est allé au ciel, puis il a vu Jésus. » Puis elle était tellement, mais tellement excitée. Elle dit, « Faut que tu ailles voir ça. » Puis, mais quelques années plus tard, son père a avoué que c'était tout faux, puis c'était tout pour l'argent, puis je ne sais plus trop pourquoi. Interdit. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Fait qu'oubliez ces histoires-là, si vous en avez entendu. Non, c'est pas vrai. C'est trop magnifique, c'est trop grand, c'est trop beau pour qu'on puisse en parler entre nous. Et moi, je pense que Paul parle de lui. Et quand il prie pour les Éphésiens, là, il dit, « Je fais mention de vous dans mes prières afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Moi, j'ai l'impression, quand il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, j'ai l'impression qu'il sait de quoi il parle. J'ai l'impression qu'il a vu quelque chose qui l'a complètement transformé. Il a vu la gloire, il a vu le Seigneur Jésus glorifié, il a eu une vision qui l'a mis en feu pour l'Évangile, puis il veut que ses frères et sœurs à Éphèse le voient aussi. Je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur pour qu'il voit ce que moi j'ai vu. C'est pour ça qu'il dit, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Il a vu quelque chose, Paul. Quand j'ai vu l'éclipse, vous savez, je ne m'attendais pas à ça en passant. C'est venu me chercher d'une manière très, très émotive. Avant l'éclipse, il y a une dame qui expliquait à son petit garçon, elle dit, tu vas voir, la lune va cacher le soleil, puis il y a une belle couronne illuminée qui va apparaître. Fait que je le savais à quoi m'attendre, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Parce que quand j'ai vu ce que j'ai vu, même si avec la petite description, je le savais, je ne le savais pas. Puis quand j'ai vu ça, là, j'ai tombé vraiment sur le derrière, comme on dit, puis j'étais comme, mais voyons, j'ai dit, c'est donc bien beau. Puis j'étais frustré parce que j'avais juste deux de mes filles avec moi. Puis j'ai dit, j'aurais aimé ça que mes autres filles voient ça. J'aurais aimé ça que ma femme voit ça parce que c'est incroyable, j'en reviens pas. Puis si j'avais su comment c'était beau, j'aurais dit à toute mon église, vous venez, vous prenez congé, je vais vous payer votre journée. Il faut que vous venez voir ça, comment que c'est merveilleux. J'ai vraiment été frustré que mes enfants, certaines de mes filles n'ont pas pu voir ça. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est une image que je vous raconte très minime de ce que Paul a vu quelque chose de tellement merveilleux. Puis j'aimerais ça que vous voyez ça vous aussi, parce que ça va changer votre vie. Puis c'est pour ça que Paul est convaincu que toutes les afflictions, même les pires, les considèrent légères. Rien à comparer à ce qui nous attend, à la gloire à venir. Gloire tellement grande qu'il dit qu'elle aura un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure. Je ne sais pas si vous aspirez à ça, ou si vous méditez souvent sur ça, la résurrection de nos corps, la gloire à venir. Deux fois, Paul dit qu'il gémit. Je gémis pour revêtir ce corps-là. Vous savez, notre culture est très, très préoccupée sur le moment présent, sur vivre le plus longtemps possible, avec les meilleures conditions possibles et avec la meilleure assurance vie peut-être, ou le meilleur fonds de pension possible, tout en espérant avoir la santé pour se rendre là pour en profiter. Hein? Il y a combien de personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui sont tombées malades, ou qui sont décédées avant même d'en profiter. Toute notre vie avant de connaître le Seigneur, on a été conditionnés à vivre pour le monde d'en bas. Maintenant qu'on est enfant de Dieu, on doit se reconditionner pour vivre pour le monde d'en haut. S'arrêter pour méditer sur la gloire à venir va changer notre manière de vivre au présent. On le voit peut-être pas, mais il y a une manière. Parce que plus on s'approche du Seigneur, et je reviens à cette relation-là avec le Seigneur, es-tu tannant de nous parler tout le temps de ça? Plus on s'approche du Seigneur, plus on voit la gloire à venir, plus ça change notre manière de vivre ici-bas. Puis tu peux mettre la prochaine image. J'ai une petite illustration. Regardez ça, c'est une porte. Elle est fermée. Et on pourrait représenter ça par, mettons, le Seigneur Jésus, parce que Jésus a dit « Je suis la porte ». L'humanité est dans les ténèbres. Et on voit la révélation de Dieu. On voit la création juste assez pour que personne puisse dire à Dieu, « Ben, tu ne me l'as jamais dit que tu existais. » Donc, on a juste ce petit filet-là de révélation. Hein? Juste assez pour savoir qu'il y a quelque chose l'autre bord. Maintenant, voir deuxième image, prochaine image. Voyez-vous, on a maintenant la porte qui s'ouvre. Et ça, je pourrais le considérer comme le salut. Quand par la foi, on donne notre vie à Christ, on vient au Seigneur Jésus par la repentance, mais la foi, bien, la porte s'ouvre. On a accès maintenant au ciel. On sait qu'on va aller dans sa présence. On sait qu'on va être avec lui pour l'éternité. Si je suis vraiment devenu son enfant, peu importe ce que je vais faire, si je suis vraiment son enfant, je ne perdrai jamais mon salut. La porte va rester ouverte. Elle ne va jamais se fermer. J'ai un accès à cause de Christ. Je suis sauvé. Maintenant, la dernière porte que j'ai mise, je l'appelle la porte de la communion, de ma relation avec le Seigneur. L'idée, c'est que plus on s'approche de la porte qui est ouverte, plus on s'approche de Jésus, plus notre angle de vision va s'ouvrir. Puis plus on va voir l'intensité de la gloire à venir. C'est en s'approchant du Seigneur Jésus-Christ qu'on découvre Dieu d'une manière plus profonde. Bien sûr, on ne voit pas tout encore. Vous voyez, on ne voit pas tout. Mais on en voit plus parce qu'on s'approche, on est dans sa présence, il nous fait comprendre, connaître par le Saint-Esprit qui il est, qui est Dieu. Et vous savez, on peut être aussi des vrais croyants, puis toute notre vie vivre loin de la porte. Ah, elle est ouverte, puis je suis sauvé. Mais vivre loin de la porte. Pas trop en relation avec le Seigneur, puis un petit peu par-ci, par-là. Mais je suis plus à la poursuite des récompenses temporaires que ce monde nous offre. Et peut-être que ce monde-ci me rend tellement heureux que je n'ai pas trop le goût de m'approcher de la porte. Peut-être que j'ai peur de perdre toutes mes petites jouissances éphémères que j'ai ici. Mais plus on s'approche de la porte, plus on délaisse les choses du monde, plus on va apprendre à connaître qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et on va entrevoir un peu plus la gloire. C'est comme si Dieu va répondre à la prière de Paul pour les Éphésiens. Ben pour moi, il va illuminer les yeux de mon cœur, puis je vais voir des choses peut-être que je n'aurais jamais vues si j'avais resté loin de la porte, même si elle est ouverte. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Il dit, je fais mention de vous, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On le sait. Pourquoi qu'il demande ça? Pour que vous le sachiez vraiment d'une manière plus profonde. C'est quoi l'appel? La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, quatre choses invisibles sur lesquelles on doit s'attarder. Donc, notre être intérieur, la gloire à venir. Ces deux choses-là, c'est avec une relation avec le Seigneur, en s'approchant du Seigneur. Le troisième, tu peux avancer, Mario, le troisième, le monde spirituel, je l'ai appelé. On doit s'attarder davantage à ce monde spirituel. On doit prioriser une marche par la foi plutôt que par la vue. Mon père aime beaucoup la danse. Bon, il ne danse plus beaucoup parce qu'à l'âge qu'il est rendu, c'est difficile. Mais à chaque fois qu'il y avait des fêtes de famille, il aimait beaucoup danser. Je pense les années 60, 70, beaucoup de nos parents de cet âge-là apprenaient à danser de toutes sortes d'affaires. Le cha-cha, puis le ceci, puis le ça-ça, je ne sais pas trop, je ne connais pas. Mais mon père aimait la danse. Puis, ce que je trouve intéressant de la danse, c'est que quand on danse, on n'a pas besoin de nos yeux. On pourrait, si bien sûr on a une salle avec pas trop d'obstacles, on pourrait avoir une grande salle, tout éteindre les lumières, il pourrait faire noir. Tant qu'on entend la musique, on peut danser dans les temps. Puis, je trouve ça intéressant comme image. Parce que la marche chrétienne, c'est la même chose dans le sens que ça se marche de la même manière au son de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, bien sûr, il faut avoir nos yeux pour lire. Mais la foi vient de ce qu'on entend, non de ce qu'on voit. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi Jésus il a dit, même si un mort ressuscite, ils ne croiront pas. Parce que la voix ne vient pas de ce qu'on voit. Tu as bien beau faire ressusciter le village, c'est pas comme ça que la foi va naître dans le cœur des gens. C'est par ce qu'on entend, par la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là. Donc, Paul se concentrait sur ce poids éternel de gloire qui est invisible. Et non aux afflictions qui sont visibles. Il semble Paul avoir saisi rapidement c'est quoi la marche par la foi. Bon, il a été rencontré par le Seigneur Jésus lui-même sur le chemin de... Tu sais, on le sait, on le lit dans les Actes. On sait qu'il a été formé même par le Seigneur Jésus, enseigné. Donc, il a rapidement appris à marcher par la foi. De notre côté, ça a l'air plus difficile à apprendre. On a de la misère à saisir cette vérité-là. J'ai l'impression que parfois, on ressemble plus au serviteur du prophète Élisée qu'à Paul. Vous pouvez tourner dans Deux Rois. On va regarder Deux Rois, je ne l'ai pas mis à l'écran. Mais pendant que vous tournez, je vous explique le contexte de Deux Rois, chapitre 6. C'est le roi de Syrie qui est en guerre contre Israël. Et lui, il était frustré parce qu'Israël était toujours capable de... Il était toujours capable de connaître leur emplacement. Ils croyaient qu'il y a un traître qui était parmi eux, mais non, c'était Élisée qui dévoilait l'emplacement des troupes syriennes au roi d'Israël. Et le roi de Syrie décide d'envoyer ses troupes où Élisée était, à Dothan. Et là, Élisée, il était là avec au moins un de ses serviteurs, le texte nous dit, qui était probablement un des membres de la communauté de prophètes, parce qu'il y avait une communauté de prophètes. On voit ça au verset 1. Regardez au verset 15. Deux Rois 6, 15. Donc, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Et là, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et là, Élisée, il a prié et il a dit, et c'est un des versets que j'aime, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Wow, c'est comme... Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions. On ne voit pas beaucoup, hein? On a de la difficulté avec ça. C'est pour ça qu'il faut le demander au Seigneur. Quand je prie, souvent, quand je commence à prier, je dis, Seigneur, rends-moi sensible à ta présence. Parce que des fois, on prie comme vite, sur le coin de la table. Ou on peut faire des prières flèches, des prières. Mais quand on veut s'arrêter pour prier Dieu, je dis souvent, Seigneur, rends-moi sensible à ta présence. Parce que je me dis, si j'arrivais devant le trône, devant le Dieu que, dans le fond, on ne peut pas voir et rester en vie, là, mais je serais juste illuminé, puis que je le voyais, je suis convaincu que mes prières seraient différentes. Je suis convaincu que je n'aurais pas la même approche nécessairement. Alors, c'est pour ça que je dis, Seigneur, rends-moi sensible. Fais-moi vraiment réaliser que tu es là, assis, présent. On le sait par la foi, on le croit, on le dit, mais j'ai l'impression des fois qu'on ne le réalise pas vraiment, qui est là, le Dieu, puissant, trois fois saint. Hey boy, j'aurais le goût de me mettre la tête à terre. Je pense que ça nous amènerait à une révérence beaucoup plus grande si on voyait Dieu vraiment quand on le prie. Alors, rends-nous sensibles à ta présence. Ouvre nos yeux pour qu'on voie. Parce que vous savez, le manque de foi nous dépouille de notre révérence. Le manque de foi nous empêche de voir le monde spirituel. Le manque de foi nous amène à prendre nous-mêmes les choses en main. Ah, puis le serviteur, c'est quoi sa réaction? Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment on va sortir, nous, personnellement, de cette impasse-là? Puis on fait la même chose devant les difficultés de la vie. Des fois, mais Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, Seigneur, comment tu vas me sortir de là? C'est à toi de le faire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on manque de foi? Bien, comme Élisée, prier. Demander à Dieu, peut-être demander pardon pour notre manque de foi, premièrement. D'avoir douté, d'avoir pensé, trouver la solution en nous, mais ensuite, on demande à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur. Ça devrait être souvent dans nos prières, « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux voir un peu plus qui tu es. Je veux voir un petit peu plus ta gloire, parce que je suis convaincu que si j'entrevois un peu plus qui tu es, ta personne, dans toute sa splendeur, ça va changer ma vie pour de vrai. C'est ça qu'il faut demander. Comme Paul, illumine les yeux de mon cœur. Donc, quatre choses invisibles sur lesquelles on doit s'attarder. Notre être intérieur, la gloire à venir, le monde spirituel, il est là, Dieu. Le Saint-Esprit qui nous habite aussi fait partie du monde spirituel. Et je termine avec le quatrième point comme conclusion, la quatrième chose, le tribunal de Christ. Ça aussi, c'est invisible, c'est dans le futur. Le tribunal de Christ. Fixer les yeux sur le tribunal de Christ, c'est se rappeler que nous allons tous comparaître devant ce tribunal-là. Et peut-être que ça nous fait peur. Mais ce n'est pas un tribunal qui va nous juger pour le péché. Christ est mort pour mes péchés. Il n'y en a plus. Dieu me voit saint, parfait. Donc, je n'ai pas à avoir peur de ce tribunal-là parce que Dieu va me juger puis va me dire, ben là, t'as fait tel... Non, Christ est mort pour mon péché. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression 4,30 sous pour une pièce. 4,30 sous pour une pièce. C'est l'idée de faire des changements qui n'apportent rien. Tu sais, tu fais quelque chose, puis au final, ben, tu as juste changé 4,30 sous pour une pièce. Tu n'as rien de plus. Tu as travaillé fort, peut-être, pour faire cet échange-là. Tu n'as rien de plus. Donc, c'est l'idée de faire des actions, des choses qui s'avèrent être inutiles, finalement, puis une perte de temps. Toutes les œuvres que nous faisons maintenant, étant dans notre corps, seront un jour évaluées au tribunal de Christ. Est-ce que je vais avoir ce sentiment d'avoir échangé 4,30 sous pour une pièce devant le Seigneur? Est-ce que je vais avoir ce sentiment d'avoir fait plein d'œuvres, mais inutiles? Est-ce que mes actions posées pour servir le Seigneur auront été sans valeur? Vous savez, le tribunal, c'est vraiment comme aux Olympiques. C'est un podium. Les gagnants vont monter pour recevoir une récompense. Et le tribunal, bien, on va monter pour recevoir des récompenses selon les œuvres qu'on aura faites. Donc, ce n'est pas un tribunal pour être jugé avec un juge. Et le mot « comparaître » veut dire « rendre clair », « rendre visible », « révéler ». Je vais aller révéler ce que j'ai fait. Et le mot « mal » dans le verset ne représente pas le péché, c'est un mot qui veut plutôt dire « sans valeur ». Inutile. Donc, on pourrait dire dans le verset, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon les bonnes œuvres utiles ou qu'il ne reçoive pas à cause des œuvres inutiles qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors, ça devrait nous interpeller parce que nos œuvres vont être révélées, soit comme ayant été utiles, soit comme ayant été inutiles, sans valeur. Donc, ça devrait nous interpeller. Vous savez, chaque chrétien bâtit sa vie sur Christ, mais chaque chrétien n'utilise pas les mêmes matériaux. Il y a un autre texte qui nous parle des matériaux. Hein? Il y en a qui construisent avec des pierres précieuses, d'autres du bois puis du foin, puis il y en a que ça part tout en fumée. Donc, on peut bâtir avec des œuvres utiles ou des œuvres inutiles, mais tout ça va être révélé un jour. Et on est encouragé à chercher justement la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que toi, tu veux? Les œuvres qu'il a d'abord préparées pour nous, ben c'est les œuvres que lui a préparées. Puis on tombe souvent dans ce piège-là de faire toutes sortes d'œuvres qui ne sont pas les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Puis on pêche tout dans ce sens-là. Parce qu'on va tous, à un moment donné, peut-être pas prier, puis dire oui à quelque chose sans chercher la face de Dieu, puis on va faire quelque chose qui n'était pas une œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Puis si on fait ça, bien, on enlève peut-être l'opportunité d'un autre que Dieu avait appelé à ça. Donc, vous voyez que cherchons la face du Seigneur. Qu'est-ce, Seigneur, tu veux que je fasse dans ton Église? Puis les chrétiens qui se brûlent à ça, les chrétiens qui font toutes sortes tout, ils sont dans tout. Puis ils se brûlent. Puis ils négligent peut-être les choses importantes que Dieu a voulu pour lui. Alors, assurons-nous que tout en étant dans ce monde visible, nous vivions pour le monde invisible. Je pense qu'il y a vraiment une urgence hein, pour les chrétiens de se détacher de ce monde. Puis je le vois de plus en plus. Puis je le dis avec tristesse parce que c'est dur de se détacher de ce monde ici-bas, visible. On est tellement sollicité par toutes sortes de choses. Le péché, clairement. Pas nécessairement juste le péché, plein d'affaires, de pertes de temps. On est appelé vraiment à se détacher de ce monde pour s'attacher aux choses d'en haut. Vous savez, le temps est court, hein? Je ne sais pas combien de temps il reste avant que le Seigneur revienne. Est-ce que je vais rougir quand le Seigneur va arriver parce que je vais être trouvé à mille et une niaiseries ou est-ce que je vais être en train de faire ce qu'il m'a appelé à faire? Donc, je le vois vraiment qu'il y a une urgence pour les chrétiens de se détacher de ce monde, s'attacher aux choses d'en haut. Donc, les quatre choses invisibles, je vais les répéter, qui méritent notre attention, notre être intérieur, qu'on soigne dans une relation intime avec le Seigneur, la lecture de la parole, la méditation, la prière, mais pas comme de la religion, puis de la routine, puis, mais avec un but d'aimer le Seigneur. Mais je parlais avec ma fille récemment qui me partageait qu'elle veut se faire baptiser. Mais elle a comme décidé d'attendre. Puis j'ai demandé l'autre jour, j'ai dit, comment ça va? Puis toi, t'as dit, ouais, j'ai préféré attendre parce que je lis pas assez ma Bible. Parce que je lutte avec ça, puis... Fait que j'ai dit, ben c'est peut-être pas une bonne raison. Toute ta vie, tu vas avoir de la misère, tu vas lutter. Puis, j'ai dit, essaie pas d'avoir comme défi de lire plus ta Bible. Essaie d'avoir comme défi d'aimer plus le Seigneur Jésus. Puis quand on est dans les moments où est-ce qu'on sent moins cet amour-là, plus refroidi, ben oui, une discipline de dire, je vais lire quand même, puis je vais me donner une discipline. C'est excellent, il faut lire la Bible, même quand ça ne nous tente pas, mais toujours dans un but de « je veux aimer plus Jésus ». Je ne veux pas lire plus ma Bible, je veux aimer plus Jésus. Puis si j'aime plus Jésus, ben là, je vais vouloir être dans sa parole, je vais vouloir être dans sa présence. Alors c'est ça que j'ai dit à ma fille, je dis « il faut que ton but premier ne soit pas de faire plus de trucs, c'est d'aimer Jésus ». Mais en attendant, si tu ne sens pas cet amour-là, oui, garde une discipline, puis lis-la quand même. Donc, notre être intérieur, on doit travailler sur ça, la gloire à venir, puis ça, méditons ensemble sur ce qui nous attend, ce qui s'en vient. Demandons au Seigneur d'illuminer les yeux, qu'on puisse s'approcher du Seigneur, puis voir un petit peu plus ce qui se passe au bord, puis dire, hey, wow, pour que ça change vraiment, concrètement, notre façon de marcher pour lui ici-bas. Ensuite, le monde spirituel, marcher plus par la foi, réaliser que Dieu est là quand j'y parle. On ne le voit pas, mais il est là. Puis il y a un monde spirituel qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Puis tu sais, Satan n'est pas partout jusque dans ma soupe, mais il est pas mal plus souvent là qu'on pense. Il y en a qui voient Satan partout. C'est pas vrai que Satan et ses démons sont dans toutes les petites défaites. Non, mais il est peut-être souvent plus là aussi qu'on pense. Il y a un monde spirituel, il y a une attaque. Puis rappelons-nous du tribunal de Christ. Un jour, Dieu va rendre visibles toutes nos œuvres. Assurons-nous que ce soit les œuvres que lui nous aura données. Parce que si c'est ces œuvres-là, ils vont avoir été utiles. Je termine avec la prière. Mais Père, on veut te dire merci. Père, on lutte, puis on va lutter toute notre vie. On sait qu'on n'aura jamais une victoire complète, 100%, jusqu'à temps qu'on voit Christ, qu'on a un corps renouvelé. Mais durant cette lutte, on peut avoir peut-être plus de victoires, par exemple. On peut ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Et on sait que c'est ton œuvre, mais on sait que tu nous demandes de faire certaines choses, par exemple. Tu nous demandes de fuir le péché, tu nous demandes de chercher ta face, tu nous demandes d'être, de prier constamment, tu nous demandes des choses à faire. Mais on sait qu'au final, c'est ta puissance, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Seigneur, viens nous changer, viens nous faire voir un peu plus qui tu es. Comme Paul dit, illumine les yeux de notre cœur. Comme Élisée a dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Mais Seigneur, c'est ma prière ce matin, que tu puisses ouvrir nos yeux, qu'on voit un peu plus de qui tu es. Et on prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.